Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Ah ouais, Audrey, garde-toi.
In other words,
c'est le temps, c'est le temps.
Hold my hand. Oh,
tu nous as cassé les oreilles toute la journée. Come on.
In other words, baby, kiss me.
Ah ouais, chanter toute la ride de chanson.
Gravel dans le retour.
C'est pas l'éclipse qui est dangereuse, c'est les gens qui vont voir l'éclipse et c'est un peu le résumé du bulletin de circulation d'aujourd'hui, Audrey.
Ben, il y a même des avertissements de demander aux gens de ne pas immobiliser les véhicules en bord de route, de ne pas s'arrêter dans l'accotement. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a eu l'idée pour qu'on en fasse un avertissement, là. C'est déjà assez rempli de trafic en ce moment sur les routes. Vous
bon,
rappelez que...
Ramassez vos chaises longues, repliez ça, remettez ça dans le coffre. Continuez de rouler, ah! OK? C'est un bord d'autoroute, là.
Les images qu'on voit, ça me fait penser à tous ces films de science-fiction où on attend après, mettons, la venue d'extraterrestres. Les Mars attaques de ce monde, les rencontres du troisième type où tout le monde s'en va à la même place puis attendre de quoi.
Je trouve ça impressionnant.
Toutes des films qui finissent bien, hein, de mémoire. Oui, c'est le fun.
Ils sont toujours gentils.
Donc, Capital, direction ouest à la hauteur de l'Ormière, la voie de gauche qui est bloquée pour une panne de ce côté-là. Sinon, ben ça bouge pas, c'est la même chose. Donc, si vous êtes sur Capital Ouest, la congestion commence à la hauteur de Robert Bourassa. Vous allez chercher Henri IV Sud, ça traverse le pont carrément. Fait que c'est assez long, là. Si vous venez juste de partir puis vous êtes sur la capitale, retournez de bord. Là, ça vaut plus la peine. Duplessis direction sud, ben, la congestion commence à la hauteur de Charest. C'est pas mal ce qui résume la circulation. En ce moment, tout le monde est en direction là, du même endroit.
Justement, pendant que tu faisais la circule sur le texto, panne entrée pont de Québec, direction sud.
Bon, tu vois.
Ça allait bien.
88-971-1021, s'il y a quoi que ce soit d'autre à signaler. On vit l'éclipse avec vous autres et craignant l'hystérie humaine collective, il a décidé de se réfugier au seul endroit où il juge que le gros bon sens va prévaloir aujourd'hui. Donc, il est en studio avec nous autres et la gang de Gravel dans le retour.
Moi, je vous ai écouté tantôt, finalement, je doute un peu. Mais...
il écrit pour l'actualité et Vélomag, entre autres. David Desjardins, salut.
Salut.
Toi, tu vis l'éclipse vraiment à 200% aujourd'hui?
Moins 200%, oui. Je travaille, puis je vais aller à l'épicerie tantôt.
Pendant l'éclipse? Oui.
Il n'y aura personne, ça va être super.
Le pratico-pratique prend le dessus sur le reste.
Je fais partie des gens plates.
C'est drôle parce que tout le monde que tu vas croiser, vous allez pouvoir avoir le même regard complice en disant « Toi aussi, tu t'en sers. »
Ouais, tu deviens ami instantanément avec quelqu'un que tu croises à l'épicerie aujourd'hui. Là.
Ouais, hey buddy.
15h30 à l'épicerie, signe de respect.
On se voit au IGA, à Saint-André-de-Beaupré.
Il y a peut-être bien des gens qui voulaient vivre une journée ordinaire en ce jour de l'éclipse, mais les écoles en ont décidé autrement, hein, parce qu'à partir du moment où tes parents, tu t'es fait dire « Ben, l'école est fermée parce que l'éclipse, c'est dangereux et finalement, ben, gardez vos mômes à la maison. »
Ouais, il y a eu toutes sortes de raisons à invoquer pour ça. Si tu les chauffeurs d'autobus, si tu gardais les enfants plus tard qui étaient compliqués à cause que l'école, normalement, ça finit autour de 3 heures.
Ça a été très variable selon les centres de services aussi. Ouais. On parle beaucoup de la Beauce actuellement à cause du fameux 100%, mais tu as plusieurs écoles qui ont prévu des activités par la suite puis c'est les parents qui vont aller chercher les enfants à 4h30. Là.
Et quand on parle aux directeurs, directrices d'école et de centres de services scolaires et autres trucs du genre, on se rend compte que finalement, la raison pour laquelle ils ferment l'école, c'est pas parce que l'école a peur de ce qui va arriver, c'est parce que l'école a peur des parents, finalement. et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, donc de ce climat-là aujourd'hui, de la peur d'avoir peur qui règne dans nos familles, puis qui est un truc qui est de plus en plus important, c'est-à-dire que au fil du temps, on a perdu la notion du risque et on est devenu une société qui est allergique au risque et en particulier avec les enfants.
Moi, je me souviens qu'à mon époque, on a été dans les dernières années à pouvoir jouer au roi de la montagne dans la cour d'école. Audrey, as-tu déjà joué au roi de la montagne à l'école?
Mais en fait, non, c'était pas à l'école, t'as raison.
Parce que nous, à l'école, c'était encore permis. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'incident, mais à un moment donné, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu montais au top de la montagne puis tu poussais les autres qui voulaient venir te rejoindre.
C'est ça, c'est pas super.
Il pouvait y avoir des blessés.
La génération d'Audrey, quand tu jouais au roi de la montagne, c'était en mode fight club. Fallait pas que tu le dises que tu allais jouer au roi de la montagne.
C'est un club secret.
La première règle du roi de la montagne, c'est qu'il n'y a pas de roi de la montagne.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est devenu comme ça?
Beaucoup les médias, on voit là, que la peur des parents... Parce que dans les faits, là, le monde dans lequel on vit n'a jamais été aussi sécuritaire. Quand nous, on était jeunes, le monde était beaucoup plus dangereux.
Oui, la marche à ta roulette.
Statistiquement, là, donc, oui, ouais, c'est ça, exact.
Le trois roues. Hein?
Statistiquement, tout était plus dangereux. Les chars étaient plus dangereux. Il y avait plus d'enlèvements, plus de meurtres, plus de violence en général. Donc, plus de violence faite envers les enfants aussi. Donc, tout le monde était plus dangereux. Aujourd'hui, il y a moins de violence, mais elle nous est projetée constamment. Puis on voit l'arrivée de cette surprotection-là avec celle des médias en continu. Donc, de la nouvelle de l'enlèvement ou du meurtre de l'enfant qu'on joue en boucle non-stop et des télévisions qu'on voit apparaître un peu partout, des télévisions qui jouent chez les gens avec ces nouvelles-là constamment, qui nous donnent l'impression, la sensation qu'on vit dans un monde dangereux. Ça, c'est la première affaire. Mm. La deuxième affaire, c'est le moment où on a décidé de transférer la responsabilité de l'éducation de nos enfants, de la coopter aux écoles.
Ça, j'aime ça. Explique un peu.
Alors, on veut tous travailler, avoir des carrières, ouais. Vivre notre vie pleinement, comme mère, comme père. Donc, c'est bien correct. Mais on a décidé qu'il y avait une bonne partie de l'éducation de nos enfants, pas de leurs apprentissages, de
pas
l'éducation.
Pas le volet académique, là.
Pas le, savoir, mm-hmm. Le savoir-être, comme on dit dans les écoles. Donc, le savoir-être allait être transmis, on va dire ça comme ça, par les écoles aussi. Et comme on a coopté ça, on est devenu des clients des écoles. Quand on n'est pas satisfait de l'éducation qui est offerte à nos enfants, bien, on se plaint.
Et le focus qu'on a sur nos enfants au singulier ou à coup de deux ou à coup de trois, ben on exige le même focus à une enseignante qui en a 30 ou 32 en avant d'elle.
Moi, je suis j'étais quand ma fille était à l'école, un extraterrestre, c'est-à-dire que je disais au prof, la première réunion, je disais, moi, je vous fais totalement confiance. Fait que c'est votre classe, vous faites ce que vous voulez, vous avez le contrôle.
T'es clairement un parent irresponsable.
Je suis un irresponsable. Et donc, mais je sais que c'est extrêmement difficile. T'sais, on parle de la difficulté d'être prof aujourd'hui. Dealer avec les parents, donc négocier au quotidien avec des parents pour qui leur enfant est la chose la plus extraordinaire au monde. Et je les comprends, on a moins d'enfants aussi, on les aime énormément, on veut le meilleur pour eux, mais on a transféré cette anxiété-là aux enfants, donc on a des enfants de plus en plus anxieux. Qu'est-ce qu'on fait? On les empêche de jouer tout seuls, de jouer sans supervision. Les cours d'école, il n'y a plus de jeux sans supervision dans les cours d'école, il n'y a plus de jeux sans supervision à la maison non plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le temps de sortir dehors pour superviser les enfants? On les garde en dedans, on les parque devant des écrans.
Et là, le vrai danger s'installe parce que oui, la trampoline, c'est dangereux. Oui, le parc, hein, une gang de flots qui joue tout seul, pas de parents, c'est dangereux.
Le maniaque à la plumoute verte, attends.
Ben oui, ben
rue,
oui.
Se faire un camp dans le bois aussi, ouais, là, c'était à risque.
T'étais bien mieux assis dans le salon à regarder des influenceurs YouTube te gueuler par la tête. Hein,
est-ce qu'on se rend compte, là, puis tout le monde parle de ce livre-là depuis quelques semaines. Donc, j'ai lu des articles dans Le Devoir, dans la presse, etc. Puis c'est le livre de Jonathan Haidt, qui est un psychologue social américain qui écrit un livre qui s'appelle « The Anxious Generation », puis où il documente de manière scientifique ce qui se passe depuis l'apparition des réseaux sociaux puis depuis que les jeunes sont devant des écrans, puis il dit qu'il y a un changement de paradigme total. C'est avant, là, on grandissait en jouant, maintenant on grandit avec des écrans. Donc, les enfants grandissent devant des écrans et non plus en jouant, et ça a changé considérablement leur bien-être psychologique. Donc, le taux d'anxiété a explosé chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes femmes.
C'est-tu parce qu'on est plus conscient du danger à regarder d'autres personnes vivre sur un écran qu'à jouer en toute innocence dehors comme on le faisait nous autres quand on était petits? Comment on explique cette... Parce qu'il y a des tableaux là, que tu nous as montrés là, ouais, où tu le vois. Là, depuis qu'on a un cellulaire dans les mains, particulièrement les jeunes, particulièrement les jeunes, ouais, femmes, le taux d'anxiété a grimpé en flèche là, dans des pays comme le nôtre, comme le Canada.
Il y a plusieurs raisons. Un, il y a le fait qu'on se compare toujours. Puis c'est pour ça aussi chez les jeunes femmes que c'est extrêmement difficile. Il y a le fait aussi que on est toujours en train de diffuser nos états d'âme. Avant, tu parles à des amis dans le cours d'école, il y a un, deux, trois personnes qui sont à l'autre bout. Tu parles au téléphone, au pire, vous êtes trois. Ouais. Là, tu diffuses ça à des centaines de personnes qui peuvent le diffuser à des centaines et des milliers de personnes. Puis donc, tout ce que tu dis est devenu public avec les répercussions qu'on connaît, c'est-à-dire tes victimes d'intimidation, tu reçois des insultes, des choses comme ça par des gens que tu connais pas. Mm. C'est des phénomènes qui étaient inconnus là, pour nous. Là. Puis ceux qui l'ont connu à l'échelle micro, là, de se faire intimider ou de se faire menacer par... ça nous est presque tous et toutes arrivé, là, par une, deux, trois personnes. On se souvient du sentiment, je dirais, terrible là, qu'on ressent à ce moment-là. Imagine quand c'est dizaines de personnes, quand c'est toute l'école. Tu sais,
et on avait des refuges, nous autres. Oui. On avait un refuge. À un moment donné, tu pouvais te cacher de ça. Mais
la fin de semaine qu'on appelle, entre autres.
Maintenant, les flots ouvrent le cellulaire et sont exposés à ça fois mille, mais aussi en mode continu. Là.
Et donc, puis on est rendu dépendant à ça. Toute la vie se passe là. Comme parents, c'est extrêmement difficile d'enlever les écrans à nos enfants, de leur dire « t'auras pas de téléphone quand tout le monde en a un ». Mais il y a plusieurs choses que Jonathan Haidt propose de faire qui peuvent permettre de renverser la vapeur. Mais lui, il parle déjà d'une génération sacrifiée.
Ah ouais?
Donc, ouais, il parle d'une génération.
On apprend avec eux autres, dans le fond. Ouais. Ils vont être endommagés, puis on va vivre avec.
Il y a des troubles qui, selon lui, sont irréversibles. Entre autres, celui, le manque d'attention, l'attention fragmentée, le fait d'avoir la dépendance aux écrans, la perte de repères sociaux, savoir comment te comporter en société dans différentes situations. Mais aussi, François Cardinal, qui est le boss de la presse, avait écrit un livre dans le temps qui s'appelait « Perdu sans la nature », qui était super intéressant. Puis lui, il était avant que toutes les jeunes aient des cellulaires. C'était en 2012, je pense, dans ce coin-là, 2010. Puis il disait... Déjà, les jeunes ne savent plus comment créer des choses, jouer à partir de rien. Ils sont moins inventifs. Tout ça. Donc,
par n'importe quel enseignant, quand vient le temps de faire de la production écrite, si le cadre n'est pas hyper restreint, ils ne savent pas où se pitcher, ils n'ont pas la capacité d'imaginer, de créer, d'aller de l'avant. C'est
parce
fou,
qu'on
là.
Est surstimulé constamment, qu'on est surstimulé ouais. sur ces trucs-là. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est un, il faut légiférer. Puis la première chose, c'est sortir les cellulaires des écoles. Je parle de Jonathan Haidt, là, il dit « on sort les cellulaires des écoles ». Puis les écrans aussi, là, c'est fini. C'était bien le fun, là, les écrans, là, multitout, là, puis on disait « les enfants vont ouais. apprendre avec ça ». Puis il dit « on ramène », il dit « une des solutions, là, c'est on passe ça ». Parce qu'il dit « c'est vraiment difficile pour les parents de dire justement individuellement « moi, je vais prendre la décision d'être à part. » C'est comme ton ami que ses parents n'avaient pas de TV. Là,
c'est le rejet de l'école. Puis c'est le. Ouais.
C'est ça. Tu deviens la bébite qui n'est pas dans la gang. Un, puis deux, d'intégrer dans le cursus scolaire des activités pour ramener le fait de jouer puis d'apprendre à prendre des risques. Donc, d'avoir un devoir. D'aller chez vous. Ben, ça a l'air niaiseux, là. Mais
descends une côte à vélo.
Fais une affaire qui ne comporte pas d'écran puis que tu n'as jamais faite. Puis écris-moi ce que tu as fait, puis reviens-moi en faisant ça. Mais non, mais ça a l'air débile, là, mais je dis comme ça, mais c'est ça. Ça fait partie des solutions.
Dans les recommandations, il y a un âge aussi qu'on recommande pour dire avant ça, les réseaux sociaux, c'est non à Noël. 16 ans.
16 ans.
Ça change la donne en tabarnouche, là. Puis en même temps, on est qui pour donner des leçons, nous autres, les adultes qui vivent avec ça dans les mains? On est aussi pire qu'eux autres,
j'ai
là.
J'ai tendance à te dire maison. Hein? On est pire, je pense. Parce que tu sais, qui est... se tasse son cellulaire pour vrai pendant le souper, tu sais, puis il répond pas à ses appels de job et ou autre ami.
J'ai eu une panne d'Internet de 24 heures en fin de semaine. Je peux te dire que c'est l'adulte qui a arrêté de vivre pendant 24 heures. Là.
Ah oui, tu t'es désorganisé.
Hey, tu dis, toi, c'était WrestleMania en plus en fin de semaine. J'avais besoin de ma connexion Internet. Je suis devenu un enfant de 8 ans en crise. Là.
Fait que là, t'as pété ton forfait de cellulaire ou...
C'était pas le bon exemple. J'étais vraiment pas l'exemple à suivre. Mais, tu sais, on parle d'une jeune génération sacrifiée, la génération adultes que nous sommes, on est obligé de s'embarquer là-dedans aussi.
Oui, je pense qu'on a... Ben, en fait, c'est à nous la responsabilité, elle n'est pas aux enfants. Là. Je veux dire, c'est à nous de donner l'exemple, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Puis, tu sais, de la même manière qu'on interdit ou qu'on va dire à nos enfants qu'il faut qu'ils rentrent à telle heure, tu sais, à un moment donné, il va falloir finir par dire, ben, ton cellulaire, tu le fermes, tu le laisses là, tu sais, puis non, je t'ouvre pas un compte TikTok à mon nom parce que tu es en bas de l'âge minimum, ouais. Tu sais, ou ce genre de choses-là. Oui, mais là, toute la gang...
Tout le monde, là, puis ouais.
Puis là, toi, t'es pas dedans. Je comprends, c'est sûr que c'est super difficile à faire, là, tu sais, puis... Moi, je me compte chanceux, là, ma fille était comme genre juste avant ça, là, mm-hmm. t'sais, mais elle est arrivée comme sur la fin de ça. Mais même à ça, je l'ai vu, t'sais. Je l'ai vu chez elle, t'sais, le fait d'être toujours sur ces écrans-là, de vivre à travers ça. Puis c'est hyper nuisible, on le voit. Donc, ce qui se passe dans les cours d'école, dehors, les jeux, tout ça, c'est pas vraiment dangereux. Ce qui se passe dans les écrans, puis que vous voyez pas, mm-hmm. parce que vous le savez pas, parce que vous vivez pas avec les répercussions, parce que ça laisse pas de blessures physiques visibles comme... un ballon d'en face au ballon prisonnier, par exemple, ou un truc comme ça, ben c'est plus dangereux, finalement, que ce qui se passe pour eux.
Il y a une réflexion à faire par rapport à ça, puis j'ai l'impression que dans la dernière semaine et demie, même au niveau des commissions scolaires puis des écoles, il y a comme un grand sentiment de culpabilité qui s'est emparé de bien des gens qui sont intervenus dans la sphère publique de dire « ouais, on a peut-être pas pris la bonne décision. On aurait peut-être dû faire quelque chose de spécial avec ça. On aurait peut-être dû encadrer l'événement de façon différente parce que le sentiment de danger, c'est comme un genre de contagion. Là. Ouais. Ça part d'un endroit X, ça s'étend à l'endroit Y. Oh, à ta peu, l'école est fermée aujourd'hui à cause de ça. Là, ça devient dangereux. Puis, pour reprendre encore l'image, il y a des gens qui vont domper les enfants en avant d'un écran pendant une demi-heure parce que ça va être l'éclipse. Là. Puis, on passe à côté sans faire d'exagération, on passe à côté d'un événement qu'on va vivre une fois dans notre vie.
Bel événement qui aurait été splendide, ah oui. Mais puis d'un plan plus large, au-delà de l'éclipse, d'apprendre à faire des affaires dans la vie par soi-même, là, de se casser un peu la gueule, de se relever, de recommencer.
Ben, le fameux principe de l'échec, on dirait que c'est quelque chose que pour une génération n'existe pas vraiment, puis t'arrives à l'âge adulte et là tu vas vivre tes premiers échecs. Premier échec amoureux, premier échec sur le marché du travail, premier échec parce que t'as essayé quelque chose puis t'essayais tellement rien dans les années d'avant, puis je trouve qu'on commence à le voir. Cette espèce d'impact-là.
Et c'est violent quand ça arrive pour la première fois puis que tu es un adulte puis que tu n'as pas appris ou un adolescent.
Mais même juste d'apprendre à être seul dans ta tête, d'apprendre
Audrey, t'as
à
tellement
rien
raison,
faire. Tu sais, quand tu es constamment... Puis encore là, on est coupable les premiers. Tu sais, moi, quand j'ai de la peine ou je m'emmerde ou peu importe, mon premier réflexe, c'est d'aller scroller puis de passer le temps.
Puis te rendre à la fin d'Instagram.
Oui, me rendre à la fin d'Instagram pour pas me rendre compte, pour passer un peu le sentiment mauvais, le goût amer que j'avais, au lieu de prendre deux minutes pour réaliser peut-être pourquoi je me sens de même, tu sais. Ouais. Fait que c'est aussi de ça que cette génération-là est privée.
Puis c'est dur, je pense. On est la première génération où souvent, on n'est plus deux parents, mais un parent. Puis parce qu'on est un parent, on dirait qu'on veut être là tout le temps, puis ça devient un genre... Moi, faut que je fasse attention. Tu sais, mon gars, la première fois qu'il a perdu une game de hockey de sa vie, il a pleuré. Puis je voulais aller le prendre dans mes bras, puis le consoler. Puis la première fois qu'il a pogné une punition, il braillait sur le banc des punitions. C'était ses premières défaites,
ses
peut-être,
premières petites épreuves,
qui avait à gérer ses premières petites épreuves et tout ça. Puis tu te demandes, comme parent, je m'en vas-tu y parler sur le banc des punitions?
J'y achètes-tu du McDo?
Ou j'y achètes-tu du McDo en sortant? J'ai l'impression qu'on est tous devenus des parents poules, peut-être parce que, dans beaucoup de situations, on n'est plus deux pour gérer la patente. Puis tu sais, des fois, à deux, tu dialogues, tu te raisonnes. Mais...
Puis là, quand t'es en conflit puis que les deux, t'as pas la même idée de ce que c'est être un parent aussi, ça peut rendre les choses assez compliquées. Merci. Tu sais, de dire, OK, le kid a fait trois coins de rue pour aller à son cours de natation. Quoi? Tu l'as laissé faire trois coins de rue pour aller au cours de natation?
Oui, c'est ça.
Il y a ça aussi, tu sais.
Puis on tient tout ce dialogue-là, mais à l'interne, souvent, tu sais. Puis on essaye de chercher la limite. Puis moi, le seul point de repère que j'ai, c'est moi, quand j'étais ticu, tu sais, jusqu'où je pouvais aller à partir de chez nous. Puis à chaque fois que je réfléchis à ça, je fais tabarnouche, on peut plus rien faire. Comparé à ce qu'on faisait nous autres. Moi, le boulevard Tadoussac, à 6 ans, à un moment donné, là, il y a des spots où je le traversais. Là, j'étais capable de me rendre de l'autre
bord. Parce que moi, après le sandwich au jambon, à midi, j'étais partie jusqu'à 4h30 le soir. Les parents n'avaient aucune idée où j'étais. Puis pourtant, j'étais une petite fille peureuse, moi, dans ma vie. Je n'étais pas dans les plus téméraires.
Il y a une gradation des permissions là, qu'on voit là, avec l'âge. Là, fait que donc, maintenant, là, pour avoir la permission que tu avais, mettons, dans les années 80 à 12 ans, il faut que tu aies à peu près 16 ans.
Tu parlais d'événements pour les gens au Québec en général, mais plus particulièrement pour les gens de Trois-Rivières, l'histoire de Cédrica Provencher. Mm-hmm. Tu sais, avant, là, ton enfant, très, très jeune, pouvait aller au parc avec ses amis puis toute l'équipe, puis pour connaître des gens qui vivaient dans ce quartier-là, la dynamique pour toute une génération a carrément changé. Mm-hmm. Parce que soudainement, ces histoires-là qui souvent avaient l'éloignement géographique, là, il y avait quelque chose de concret dans leur cours. Fait que là, non, faut que je te voie, t'as pas le droit d'aller plus qu'à telle place, faut
c'est
que je sache
que
exactement sur quelle amitié.
Médiatiquement, c'est un événement qui a été super important parce que aussi les réseaux de nouvelles en continu existaient. Puis on l'a vu jour après jour après jour. Ça a pris je sais plus combien de temps avant que finalement on la retrouve. T'sais. Donc, ça a créé énormément d'anxiété sociale, on en parle encore. Mais c'est un événement là, puis qui nous a marqués.
Fait que David, en conclusion, si j'ai bien compris ce que tu nous dis, c'est que la meilleure façon d'inverser la tendance, c'est de regarder l'éclipse drette dans les yeux en famille là, dans une vingtaine de minutes.
Les yeux très ouverts, oui, effectivement.
C'est vrai.
Ben non, c'est pas vrai. Mais tu sais, d'essayer de se parler un peu, d'essayer aussi, tu sais, je parlais des trucs tantôt qu'ils veulent implanter dans les écoles, mais d'essayer d'en faire soi-même, puis de se parler, puis de se dire...
De se challenger, peut-être?
Ouais, de se challenger comme parent, puis de dire, OK, là, aujourd'hui, aujourd'hui, je laisse faire ça. Je laisse aller, on va dire, je prends au coin de la rue. Puis là, il va y aller 4 fois. Puis la 4e fois, je vais m'être rendu compte qu'il ne se passe rien. Le prochain coup, on essaiera 2 coins de rue.
Se désensibiliser.
Eh oui, mais c'est carrément ça.
On se reconnaît. David, merci beaucoup pour la réflexion. Puis attention à l'éclipse, là.
Oui.
Yes. À l'épicerie, là, dans le coin des surgelés.
Notre ami David Desjardins, que vous pouvez lire dans l'actualité, entre autres choses. Il est 15h07. Malgré l'éclipse, n'oubliez pas qu'on est en mode rock'n'ball aujourd'hui et qu'il y aura peut-être des opportunités dans les prochaines heures. On a une paire de billets pour les ex-ambassadeurs à vous remettre également d'ici 18h. J'imagine qu'on doit retourner dans la circulation, Audrey?
Bien, c'est encore super congestionné. Là. Ça ne s'est pas du tout amélioré. Si vous êtes sur les routes en ce moment, la congestion pour se rendre, l'autre bord du pont commence sur la capitale direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa. Donc, ça congestionne là, vraiment, quand je vous dis tout le long, à la hauteur de Charest, à l'entrée du pont, pour traverser l'autre bord aussi, Duplessis direction sud à la hauteur de Charest. La congestion commence jusqu'au bord du pont également. Il y a des problèmes sur Charest direction ouest entre Robert Bourassa et Henri IV. Donc, ça fait le tour pour les grandes artères si vous êtes directement sur les routes. Vous rappelez que le traversier a beaucoup plus de va-et-vient qu'habituellement, étant donné que ça roule quand même pas mal. Là. Sinon, s'il y a quoi que ce soit, bien, vous n'hésitez pas. 88-971-102, tout ce qui était de panne sur la capitale, là, c'est réglé.
Il est 15h08, donc, Véro, dans la région de Québec, on est à quoi? 22 minutes de l'éclipse? Là?
Je te dirais 22 à son, la portion totale de la chose qui va durer 2 minutes de dépoussière en tout et pour tout.
Fait que mettons que je pars Dark Side of the Moon à time là. Normalement, je devrais arriver à l'éclipse avec la toune Eclipse. J'ai-tu fait mes calculs comme faux?
Tu
là?
Le connais plus que moi.
C'est compliqué, là.
Il y a des gens qui vous font dire d'allumer vos lumières pendant ce
hey, mais on s'en parlait tantôt. Notre souvenir, nous autres, c'est que ça va donner l'impression, pour ceux qui ne regardent pas directement l'astre, qu'il y a un nuage qui passe. Fait qu'on le vivra tantôt ensemble.
Oui, bien, en fait, on va se donner de l'éclipse littéralement, puis on va ouvrir les lignes 418-780-1021. Courte pause, on revient, c'est Gravel dans le retour, en cette journée unique de l'éclipse.
La circulation, présentée